Salut.
Il fait chaud dans le studio de Radio G. J'ai couru plus que certains membres de l'équipe de France de football pour arriver jusqu'ici. Donc on a Romald avec nous ce soir dans le studio.
Et bien bonsoir. Ça faisait
un petit moment.
Je viens pas souvent.
Ouais. T'es pas encore parti au Hellfest ?
Je pars demain et ça commence jeudi en fait.
Je vous ai sélectionné deux titres parmi la programmation. On va parler un petit peu de ces artistes. Et notamment, on écoutera les Foo Fighters parce qu'avec nous dans le studio ce soir, nous avons...
Et là, on a Frédéric Brochard qui vient en tant que président de l'association OVNI Anjou.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Et ben, je t'en prie.
Bonsoir Frédéric. Bonsoir salut. Karine.
Salut, salut.
Qu'est-ce que tu viens faire dans ce studio par cette température caniculaire ?
Un coup de cœur que j'ai eu, publié au Forge des Vulcains. Donc ça s'appelle Le Point Aveugle de Franck Thomas.
Ok.
Un roman de science-fiction.
Très bien. Eh ben, bonsoir aux auditeurs de Radio G. On va se mettre sur le chat, si vous voulez, sur le site de Radio G. Et on va commencer l'émission avec de la musique. Alors là, j'ai été chercher un groupe que je compte bien voir samedi prochain, Hellfest, c'est Eternal Champion. Et on s'écoute un titre de leur deuxième album, puis on en discute un petit peu sur le 101.5 dans quelques minutes.
Yes. We'll be right back.
Eternal Champion, donc, dans Imaginaire sur le 100.5, groupe qui se revendique, traditionnel, épique et heavy metal, hein, on est complètement dedans. C'est plutôt des jeunes, quand même. D'ailleurs, il y en a un qui est décédé il y a un mois, leur bassiste.
Oui, et pas le batteur, comme je disais tout à l'heure.
Et qui était aussi bassiste de Summerlands, qui est un groupe qui partage un peu les mêmes musiciens. Et du coup, le Hellfest les programme tous les deux samedi en début d'après-midi, d'ailleurs. Et donc, Eternal Champion, donc un groupe résilient, quand même, parce qu'ils seront quand même en concert samedi prochain. On vient de s'écouter un extrait de leur deuxième album, Ravening Iron. Donc, titre du morceau, mais aussi de l'album. Je montrais la pochette de l'album qui est signée Ken Kelly. Donc, Ken Kelly qui était un neveu de Frank Frazetta et qui a un style qui ressemble beaucoup. C'est un petit peu normal. Le groupe se revendique de Moorcock, Liber, etc. Enfin, les classiques.
La fantaisie, la fantaisie d'un sorcerie.
D'ailleurs, il y a un titre sur cet album qui s'appelle Worms of the Earth, qui était le nom d'une nouvelle de Robert Howard. Et leur chanteur quand même, le chanteur d'Eternal Champion, Arbor, j'espère qu'il les aura samedi des belles armes sur scène. Il est aussi forgeron. Il a aussi sa propre forge d'armes qui vend sur son site internet. Et il est aussi écrivain de Sword and Sorcery. Il a publié son premier roman qui s'appelle The Godblade aux éditions DMR. Alors DMR Books, c'est un éditeur américain qui réédite donc des vieux textes, je pense, libres de droit, hein, plutôt début du XXe siècle de Sword and Sorcery. Mais ils font aussi des nouveautés, quoi. Mais vraiment dans l'esprit. Et la pochette de l'album, d'ailleurs, est aussi le quatrième de couverture de son bouquin.
Et on peut espérer une traduction française à un moment?
Alors c'est... Moi, je sais pas, il faudrait trouver un éditeur assez... branché dans le genre, moi je vois pas trop là. DMR Books, sinon c'est du print on demand, donc vous pouvez acheter ça sur un célèbre site de vente en ligne.
Si vous êtes anglophone, donc. Hein.
Ouais, voilà, par contre c'est en anglais. Bon, et ben on passe à la chronique de Karine.
Dans le point aveugle, Franck Thomas nous plonge dans une expérience de lecture peu commune qui est très sensorielle. Il nous émerge dans la peau d'une jeune femme vivant dans un monde utopique où tout est possible. On peut tout explorer, les désirs de chacun, leur singularité. Bref, tout va bien, la technologie et la nature sont en harmonie. Sauf que cette jeune femme n'arrive pas à trouver sa place et à créer des liens avec les autres. On observe ses tentatives de création du lien et d'entrer en communication avec les autres dès les premières pages, mais sous la forme de sensations. Le langage non-verbal est ainsi essentiel et c'est ce qui nous frappe, parce qu'on n'a pas forcément cette habitude de voir ça en littérature. Donc on tâtonne aussi à la lecture au tout début, et l'on découvre avec elle le monde dans lequel elle évolue. Un monde où la langue a également changé, l'écriture se veut d'une certaine neutralité et inclusive, mais pas comme on l'entend aujourd'hui avec l'écriture inclusive. Donc quelques exemples, tous et toutes deviennent touc, avec un C à la fin qui devient ou non muet en fonction des mots. Et puis, touc. Une fois qu'on a pris le pli, par contre, ouais. Tout de suite, ça suit une certaine logique. Et on finit par oublier cette orthographe qui peut ne pas plaire à tout le monde. Et lire sans problème ce roman. Cette jeune femme a des sortes de flashs, des brides de souvenirs qui la traversent et l'impactent sans qu'elle puisse comprendre les raisons, si ce n'est qu'elle a la capacité de partager toutes les émotions d'autrui et suite à un débordement d'émotions. Elle tombe dans les pommes et va entrer dans un autre univers un peu parallèle où elle prend la place d'un homme. S'ensuit toute sa quête au travers de cette expérience et on suit un projet de stockage de la mémoire qui va forcément l'amener à des découvertes. Je ne vous en dis pas plus, bien sûr, pour éviter les spoils. Et au travers de ce roman de science-fiction, Le Point Aveugle, Franck Thomas nous propose une réflexion presque philosophique illustrant les problématiques de la technologie, mettant en avant l'importance du langage et de son évolution, mais au-delà de ça, il nous offre une vraie expérience de lecture déstabilisante, novatrice et complètement captivante. On va au cœur de ce qui fait de nous des êtres humains, nos corps, nos sensations, nos émotions. En soi, la lecture, une documentation très poussée tant par le fond et la forme de ce roman, il se lit bien. Une fois qu'on est mis dans le bain, et c'est bientôt les vacances, c'est le meilleur moment de découvrir cette plume aussi envoûtante que que juste de par les messages qu'il fait passer. Je ne peux que vous inviter à découvrir ce magnifique OVNI et vous pencher aussi sur les autres romans qu'il a publiés dans la même maison d'édition, donc au Forge des Vulcains. La fin du monde est plus compliquée que prévu, c'est un post-apo, et L'amour à la plage, une satire. Je suis personnellement...
C'est bien pour cet été aussi ça.
Ben oui. Et je suis personnellement très curieuse de le découvrir sous d'autres genres littéraires. Parce que c'est assez curieux. Donc je vous laisse avec le groupe Cemetery Skyline et leur chanson Violet Storm.
Alors, faut choisir d'autres groupes et de groupes.
Oui, je sais.
Alors, en plus, c'est un groupe nordique, mais non, là, ils ont un nom anglais.
Et je préfère norvégien, s'il te plaît.
Non, du coup, comme on a notre gros Raoult Metal qui arrive dans quelques jours, j'ai regardé s'ils étaient à l'affiche du Hellfest, mais non. Mais en fait, Cemetery Skyline, c'est un all-star band de métal nordique. Et donc, je peux vous dire quand même, on retrouvera peut-être certains de ces musiciens jeudi dans Dark Tranquility.
Ah, super.
Et puis, vendredi dans Amorphis, sous l'altar. Allez, moi je trouve qu'il y a un... Alors du coup, je m'attendais à un truc plus métal que ça. Je trouve qu'il y a un petit...
Mais c'est un gothique nordique.
Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a un petit côté Sisters of Mercy qui est plutôt sympa. Donc on s'écoute ça tout de suite dans l'imaginaire. Puis on revient donc avec Frédéric et l'association Envenir en Joue dans quelques minutes
OVNI,
sur Radio G.
Envenir en Joue.
Ouais, j'ai dit quoi?
Envenir.
Ah ouais, j'ai en route.
Trop d'envenis, c'est bon. No answers, no reasons.
ce meuterie Skyline dans l'imaginaire sur le 101.5. On va discuter maintenant avec Frédéric de OVNI Anjou.
Et oui, on a invité Frédéric Brochard, donc président de l'association OVNI Anjou. Alors les ovnis, c'est un très très grand classique de la culture populaire et de la science-fiction générale. On date ça. En fait, c'est beaucoup plus récent qu'on pourrait croire. Les ovnis, c'est vraiment devenu quelque chose, un phénomène vraiment très connu à partir de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
Même un petit peu après. Enfin, ça a commencé avec les avions, justement, les aviateurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, on a eu énormément de bouquins là-dessus où OVNI égale extraterrestre. On verra que c'est pas forcément le cas et que même c'est une hypothèse parmi tant d'autres. On a aussi le grand souvenir pour les plus vieux de la série X-Files des années 90 avec Duchovny et puis
même les jeunes ils ont regardé ça j'espère.
Ouais, peut-être.
Ça me dit quelque chose, je l'ai regardé
hein. Ouais,
et donc avec le... C'est bon, si Karine l'a vu, ça va.
Ce fameux investigateur du FBI qui a son super
poster
avec I Believe avec
I Want to Believe, non?
Ah non, c'est I Believe. Je crois que c'est I Believe.
J'ai un doute.
Tu mets le doute peut-être, mais
Karine,
trop jeune, de ça.
Frédéric,
j'aurais dit I want to believe,
je crois.
Mais voilà, donc j'ai fait l'extrapolation, ouais. Parce que I believe, c'est exactement ce qu'il fait dans la série. Mm. Et par contre, autant on parle beaucoup d'OVNI et d'extraterrestres, et on parle très très peu dans la culture populaire d'ufologue. Alors j'ai compris.
Du ufologue.
Ah oui. Alors l'ufologue. On va voir ce que c'est, quoi. Donc Frédéric Brochard, super d'être venu, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Alors déjà, je m'appelle Frédéric Brochard, donc j'ai 54 ans, je suis président de l'association OVNI Anjou que j'ai repris en 2015, sachant que j'étais un des cofondateurs en 1997, donc il y a déjà 30 ans pratiquement de recherche et de travaux d'enquête sur le terrain concernant les phénomènes d'OVNI. Pour en revenir à ta préface, il s'agit pas de culture populaire. Nous considérons que c'est, j'irais, une science à la limite d'autres sciences aussi, avec plein de sciences, et le phénomène OVNI c'est surtout été... connu du grand public, surtout grâce à l'observation de Kenneth Arnold en 1947, qui était un pilote civil qui recherchait un avion dans les Appalaches et qui a été surpris de voir plusieurs phénomènes en forme de soucoupe, mais plutôt en forme de trident, qui donnaient l'impression en fait de se déplacer comme des soucoupes on pourrait en fait envoyer sur une table, par exemple.
Alors quand je parlais de culture populaire, c'est par rapport justement à l'émission Imaginaire et le fait que nous on a ce lien là et c'est aussi ce qui nous a donné l'idée de t'inviter.
Frédéric, je t'arrête, ça a pas été très médiatisé à l'époque ça, si?
Ah si, tout à fait, ça a fait la
une. C'est même chose que chez nous en France.
Ouais, c'est le début.
Ah ouais,
en
France. D'accord.
Mais sachant qu'il y a eu d'autres cas précédents, donc notamment on reviendra tout à l'heure concernant les Foo Fighters, mais même auparavant, il y a une grande vague aux États-Unis fin 19e début 20e de fameuses airship américain qui et dont les caractéristiques formelles et visuelles selon les témoins ne correspondaient à aucun type d'aéronef connu. Bon, après on peut revenir dans le passé, donc il y en a eu aussi au Moyen-Âge et autres, mais bon après on est plus dans l'interprétatif. Mmh. Et pour l'histoire contemporaine moderne, c'est rentré plutôt dans le milieu populaire grâce au terme soucoupe volante en 1947.
D'accord. Flying saucer, c'est ça. Alors votre association, qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelles sont vos missions, vos activités?
Notre association a pour objectif en fait d'enquêter concernant les phénomènes OVNI, surtout être sur le terrain, plus près des témoins. Donc on est les témoins, on va rentrer entre les témoins, on enquête sur ce qu'ils ont pu observer et on leur donne une explication. C'est dans la plupart des cas, mais un certain nombre de cas restent irrésolvables et ne peuvent pas être compris parce qu'on n'a pas, on ne peut pas déterminer véritablement de quoi il s'agit.
Et si on devait définir l'ufologie, ça serait quoi la définition synthétique?
C'est l'étude des phénomènes OVNI, en général, donc objets volants non identifiés. C'est étudié également aux États-Unis. En France, on a un organisme qui s'appelle le GEPAN, qui dépend du CNES, qui étudie ce genre de phénomène également, avec lequel nous ne travaillons pas, pour des raisons de procéder. On ne veut pas non plus dévoiler un certain nombre de choses et eux non plus ne veulent pas non plus sortir un certain nombre de dossiers.
Donc le GEPAN, je crois qu'il a changé de nom dans les années 80, c'est quelque chose d'assez vieux, hein, c'est ça, hein.
Il a été créé en 1977, c'est la première fois qu'un organisme a été créé en France, donc il s'appelait le GEPAN, mais sans I. Maintenant c'est le GEPAN. Donc
alors ça veut dire quoi? Ça veut dire
groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc il travaille avec le CNES, avec aussi des scientifiques du CNES. Et on est allé sur le terrain rencontrer des témoins qui ont aussi contacté le GEPAN. Il n'y a pas du tout le même son de cloche et le même traitement des informations ou des informations.
Et vous êtes combien dans l'association?
On est une quinzaine de membres, issus de tout milieu.
D'accord, mais sur Angers ou la région?
Sur Angers, sur Anjou.
Ça paraît beaucoup, en fait, dit comme ça.
Non, parce qu'on sélectionne nos membres.
Ouais.
Ce sont des gens qui ont déjà un minimum de connaissances concernant les phénomènes OVNI, parce qu'on peut pas les sentir comme ça. Ce sont des gens qui ont généralement une cinquantaine, soixantaine d'années, qui ont déjà aussi un bon bagage culturel et aussi de vie, au préalable, qui nous permet de mieux aborder les phénomènes. On n'arrive pas sur des terrains vierges. Alors, effectivement, c'est des gens qui souvent étaient témoins ou pas du tout.
Et est-ce que ça nécessite des compétences d'enquêteur?
Oui. Mais disons que tout le monde n'est pas enquêteur dans l'association. On peut enquêter différentes matières. On peut aussi bien aller aux archives municipales, rechercher des informations, que se rendre sur le terrain pour essayer de calculer un petit peu les distances vraisemblables vis-à-vis du phénomène, faire des relevés techniques et autres.
Donc il y a une démarche qui est peut-être documentée ou qu'on doit suivre, ou une sorte d'éthique en fait de l'enquête sur les OVNI.
De protocole.
Bah, tout à fait. Le protocole. Bon, tout d'abord, c'est le témoin. Tout est axé autour du témoin. De pas influencer le témoin. C'est de se rendre, si possible, dans les mêmes conditions d'observation avec le témoin. C'est-à-dire que on se rend au moins un minimum à deux sur le terrain. Et on interroge le témoin. On essaie de voir avec lui ce que ça peut être, ce que ça ne peut pas être. Et on s'il y a des traces, évidemment, on prend en note des traces physiques sur le témoin ou au sol. Et donc après, on fait un travail d'analyse concernant ce que a pu observer le témoin. Mais nous, notre spécialité, c'est plus en fait d'être une association d'enquêteurs de terrain, mais sur le terrain, qu'on appelle du fond du jardin. C'est-à-dire des phénomènes observés qui sont à moins de 100 mètres du témoin. Et c'est ça qui fait l'intérêt, parce que là, le risque de mauvaises interprétations est faible à ce niveau-là.
D'accord, donc c'est pas forcément aérien. Alors. Enfin, si, c'est, par définition, ça doit l'être, non?
Il peut y avoir des phénomènes stationnaires au-dessus d'un toit. Ça, on a eu plusieurs cas comme ça où les phénomènes doivent s'apparenter à un type d'aéronef connu, où les propriétés, j'irais tout simplement mécaniques, physiques, on les connaît pas, on les maîtrise pas. Notamment des phénomènes qui défient la gravité, qui se déplacent à des vitesses absolument considérables en très peu de temps, ou qui s'évanouissent sur place, ou qui se rétractent, ou qui se doublent. Enfin, des phénomènes absolument qui dépassent notre science actuelle.
D'accord. Et justement, les ovnis, alors ce que je disais en préambule, c'est qu'on a toujours l'impression que ce sont des extraterrestres. Or, il y a, comment ça s'appelle? C'est ETH, c'est l'hypothèse extraterrestre, c'est juste une hypothèse. Il y a beaucoup d'autres hypothèses, a priori. Il y a même des ufologues qui ne croient pas du tout aux extraterrestres.
Disons que c'est complexe. L'affaire est plus convaincante que quoi. La plupart des gens ne connaissent pas du tout ce à quoi on a affaire. Les journalistes, n'en parlons pas, ils ont une vague idée de ce que c'est, mais ils ont des brides d'informations. Les ufologues, les chercheurs les plus compétents, ce sont ceux de terrain. C'est en fait, c'est là où on se rend compte qu'il se passe un certain nombre de choses, notamment en Anjou. Et il faut dire qu'en Anjou, on a déjà une centaine de cas qui ont été répertoriés. Moi, j'ai dû enquêter déjà sur plus de 60 cas, c'est quand même pas mal, rencontrer plusieurs centaines de témoins. Et ça touche toutes les régions du monde et tous les pays du monde. On a affaire à un phénomène mondial. Et ce, depuis longtemps. J'en reparlerai tout à l'heure, mais bon, aux États-Unis, il y a eu au congrès récemment, il y a un an, il y a eu pas mal de scientifiques et notamment de militaires de la US Navy qui se sont manifestés et qui ont établi des caractéristiques uniques des phénomènes OVNI. Je vous en reparlerai tout à l'heure.
D'accord. Il me semble que d'ailleurs les archives américaines ont été ouvertes il y a quelques années au public.
Oui,
au public américain, ça c'est sûr. Je ne sais pas si toi tu as accès.
Oui. On a des informations, des dossiers qui sortent finalement. Ils ont eu l'autorisation d'un certain nombre de documents. Tout n'a pas été déclassifié. Et beaucoup de documents déclassifiés sont caviardés. C'est qu'en fait.
Ah ouais, carrément. Tu vois, c'est biffé quoi.
C'est biffé. Donc, il y a des pages, il y a juste une petite phrase. Bon, au moins ils ont ce type d'information. En France, c'est beaucoup plus compliqué.
Et ça correspond à une grosse documentation. Il y a beaucoup.
C'est des milliers et des milliers de pages.
Ah oui, d'accord. Et donc depuis les années.
Depuis les années 50, même 40, 47 aux États-Unis plus précisément. Et ces documents-là sont absolument gigantesques en termes de masse de papier, d'informations. Et là, on se rend compte évidemment du côté un petit peu caché, dissimulé, d'un certain nombre de choses qui peuvent être plus que dérangeantes.
D'accord. Donc après, c'est vrai qu'aussi on peut avoir cet aspect-là. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas un côté complotiste? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on ne nous cache pas des choses? Évidemment, quand on ne comprend pas le phénomène, on peut se poser beaucoup de questions et se demander justement si ce n'est pas extraterrestre, qu'est-ce que ça peut être?
Avant même de dire ce que ça peut être, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je vous donnerai juste un avis comme ça, mais en ce qui concerne ce genre de manifestation, savoir que le nombre de milliers de cas, ce sont des témoins même aussi bien issus du domaine militaire, donc des gens qui sont aussi assez pointus, sont des pilotes d'aéronefs. Il y a aussi des phénomènes qui sont vus sous la mer, il y a des phénomènes qui peuvent être vus au-dessus de votre toit, donc c'est quand même très très vaste. Après, effectivement, on va parler de nous d'abord dans l'hypothèse. On va déjà constater un certain nombre de faits. Récemment, par exemple, j'étais allé enquêter où il y a un phénomène qui a été observé au-dessus d'un toit. Le témoin était surpris et d'ailleurs il est resté marqué depuis comme un événement post-traumatique. Et le phénomène a pivoté sans osciller, ce qui signifie que là, il faisait fi en fait de la gravité. Et ça, à l'heure actuelle, et la forme même du phénomène ne correspond à aucun type d'aéronef connu, dans un silence le plus total, et une vitesse où, effectivement, n'importe quel type d'aéronef, en fait, vu la portance, serait déjà crashé. Donc c'est des faits comme ça, on en a de temps en temps qui nous sont montés du terrain. Et on va sur le terrain.
Et vous êtes équipé, vous avez des appareils, de la technologie, parce que j'imagine que la technologie évoluant, les témoignages aussi deviennent différents, il y a peut-être plus de vidéos, plus de...
Curieusement, sur les cas les plus conséquents, les témoins sont pris sur vraiment d'une étonnement,
de surprise,
qu'ils n'ont pas leur réaction. On a des témoignages comme ça, vous avez le téléphone portable tous les deux en poche, ils roulaient sur une pelote, ça a duré 2 minutes. Ils ont été tellement subjugués par le phénomène qu'ils observaient. D'ailleurs, c'est un gros cas parce qu'il y a aussi un missing time dans l'affaire. Donc, il y a un temps manquant quand ils sont rentrés. Là, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans le concret, dans la réalité des choses. Et ce type de témoignages nous ont été rapportés par des témoins d'une fois. Et ceux-là, c'est des anciens qui travaillent, enfin, des jeunes retraités qui travaillent pour le ministère de la Défense, qui n'avaient jamais été confrontés au phénomène d'OVNI, ça ne les intéressait pas.
D'ailleurs, on parle beaucoup des ovnis en tant que phénomène, et ces ovnis, comme tu l'as expliqué, ça passe par des témoignages. On parle beaucoup moins des témoins, on parle beaucoup moins des gens. Aujourd'hui, ces gens que tu rencontres, est-ce qu'il y a un profil type ou
Non, ça touche toutes les professions, tous les milieux socioculturels, mais il va de soi que le plus difficile, c'est plus les cas sont conséquents, intrigants, et ont impacté la personne, plus il est difficile d'avoir le témoignage. On est arrivé sur des cas où il nous a fallu 4-5 ans avant que le témoin nous raconte son histoire et ce qui s'est selon ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qui s'est produit. Et ce sont des témoins qui, pour beaucoup, sont tout à fait sains d'esprit. Il n'y a pas de problème particulier.
Et justement, quand on est un témoin d'un phénomène pareil, on peut comprendre qu'on n'a pas forcément envie d'en parler. On se dit, on va me prendre pour un fou, on va pas me croire. En tout cas, on va pas me croire. Ces gens-là, on parle d'abord à leurs proches.
Pas tous, parce que même des fois les proches ne veulent pas croire. Moi, j'en ai un cas comme ça d'un membre de l'association qui l'a intégré parce qu'il a observé un gros phénomène dans les années 70, au-dessus de la Loire à Montsoreau. Phénomène estimé à plus de 250 mètres de long. Bon, pratiquement la taille d'un porte-avions au-dessus de la Loire. Vous imaginez, silencieux, 4 témoins en pleine nuit. Je peux vous dire que il en a parlé à sa compagne qui, même après toutes ces années passées, ne le croit toujours pas. Mmh. Voilà.
Alors, surtout Montsoreau, c'est un haut lieu de l'ufologie, même mondial. Il y a eu un phénomène très 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 important en 1966.
Parce que tous les ans, nous organisons les rencontres. Ben là, ça va être la troisième année des rencontres ufologiques de Montsoreau. Donc, en fait, Steven Spielberg, en fait, dans son film Rencontre du troisième type, a rencontré François Truffaut, qui a joué donc le rôle d'un scientifique français.
Alors c'était Claude Lacombe, mais c'était inspiré d'un ufologue français connu. Ouais.
Et Spielberg a contacté Heineck, qui est un grand spécialiste du phénomène venu aux États-Unis, qui lui-même était un ami de Jacques Vallée. Jacques Vallée, il faut savoir que c'est un astrophysicien, un informaticien de très haut niveau, un brillant qui travaille à la Silicon Valley. C'est une tête chercheuse et penseuse considérable. Et qui avait entendu parler d'un cas d'observation avec trace au sol à Montsoreau, des époux Lacoste, sachant qu'on peut le dire parce que maintenant c'était passé dans les journaux et là le nom peut dévoiler, qui était photographe à Angers et qui avait acheté un pan de terre sur lequel il voulait faire construire une maison dans les hauts de Montsoreau. Et un soir, en voulant aller voir un petit peu l'état des travaux vers 22h le soir, donc ils y vont tranquillement en voiture et ils remarquent une boule lumineuse stationnaire au-dessus du champ. Mais vraiment, quasiment du touche-touche. Ils auraient une pierre, ils l'auraient touchée. Et donc le phénomène a continué à se déplacer lentement, sans un bruit, au-dessus des vignes, et a disparu. Le lendemain, donc, le propriétaire du terrain a découvert une trace au sol, attestant le passage d'un phénomène. Et donc, du coup, Spielberg ayant entendu cette histoire de la part de Jacques Vallée, a mis dans le film, en parlant au tout début du film, comme quoi, donc, les deux scientifiques, l'espagnol et puis le français, pour la première fois qu'ils se rencontrent, nous étions aussi rencontrés à la rencontre de Montsoreau.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai que c'était le film de 77, Rencontre du troisième film de Spielberg, avec François Truffaut qui jouait cet ufologue, donc c'est le seul ufologue qu'on a pu voir quasiment dans un film. Et effectivement, ouais. C'est la toute première scène du film. Le film se commence comme ça.
On fait un petit break musical dans l'émission Imaginaire. On va s'écouter la musique de la série OVNI par Langevin Tilassine. Et on discute avec Frédéric après. L'OVNI en joue. Toujours avec Frédéric Brochard, président de l'association OVNI en joue dans Imaginaire sur le 101.5. On vient de s'écouter un extrait de la série OVNI par Tilassine. C'est assez rigolo qu'on passe Tilassine parce que de la fenêtre, là, je vois le conservatoire. C'est là que William Rezé a commencé à faire de la musique. Hein. Donc, c'est bien. Ça l'a mené assez loin. Vous l'avez vu cette série? Moi pas. Et ben non, je regarde pas de série, ni de série française encore moins.
J'ai regardé quelques épisodes, oui, effectivement. C'est décalé. C'est humoristique. Les décors sont très sympas des années 70.
Est-ce que ça s'inspire de cas célèbres?
Non,
non, ah non, pas du tout. Non, tout est imaginé, ça fait pas référence à...
Il n'y a pas de cas particulier de référence, mais bon, ça peut faire penser à certaines choses, effectivement. Mais bon, on n'est pas sur des cas précis. Hein, ouais. On est sur des choses qu'on pourrait rencontrer, effectivement, dans le cadre ufologique.
Enfin, ça se passe un an après rencontre du troisième type, en fait. Hein. Ça se trouve, ils se sont placés par rapport à ça.
D'accord, ok. Moi, je me rappelle, tu parlais de cas... Francky Fontaine, non? C'est ça? J'ai oublié de...
Ça, c'est l'enlèvement de Sergi Pontoise dans les années 79, si je me rappelle bien, effectivement, ouais. Qui avait fait la une des journaux et pour lequel donc l'affaire a été classée officiellement, mais qui pose quand même beaucoup de problèmes, à savoir les témoins n'avaient pas besoin de publicité quoi que ce soit. Enfin, disons que ça leur a plus causé de problèmes qu'autre chose. Il reste quand même qu'il y en a un qui a disparu pendant un certain nombre de temps. Là, ça fait référence à des abductions. Un gendarme de l'époque avait donc été interviewé à ce sujet, avait dit, vous savez, des dossiers comme ça, on en a beaucoup.
Bon, ok. Un cas assez connu, parce que moi, j'aurais pu le passer, mais j'y pense que maintenant, il y a un groupe de pop anglaise qui s'appelle Super Fury Animals, qui a fait une chanson sur Francky Fontaine, quand même, il y a une dizaine d'années. Donc, tu vois, c'est arrivé jusqu'en Angleterre et tout. Hein.
Alors justement, en parlant de gendarmerie aujourd'hui, comment est-ce que on est reçu quand on voit un OVNI, qu'on se dit je vais aller à la police, à la gendarmerie? Alors, et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs du côté des autorités? Quelle est la démarche?
Très bonne question. Admettons que votre voisin observe un phénomène OVNI, qu'il souhaite en parler, parce que déjà c'est pas forcément gagné. Nous on a un cas comme ça. Un petit village s'appelle Le Leroux dans le département 35. Alors non, Le Leroux dans le département 35, on est un petit peu plus loin que le département. Et deux témoins observent un phénomène conséquent, je pourrais vous en parler tout à l'heure, et on la réflexe d'appeler directement la gendarmerie. Alors il faut savoir que la gendarmerie est obligée de prendre votre disposition concernant l'observation d'un phénomène OVNI. À savoir pourquoi, parce que ça, il peut y avoir danger évidemment que l'objet lui-même se crache quelque part. Il peut y avoir aussi une problématique concernant la défense nationale. Donc ça peut être aussi un objet issu d'un autre pays, un des pays pas forcément amis. Ou alors un risque aussi lié à des attentats, je ne sais pas. Donc une fois que voilà, donc vous appelez, donc il doit prendre la disposition. Bon, téléphone, bon, ça dépend des gendarmes, ça dépend de leurs fonctions. Mais vu aussi le travail qu'ils ont à faire en ce moment, c'est pas la priorité.
Ils ont pas une formation par rapport à ça, j'imagine, pas spécialement en tout cas.
Non, nous de toute façon, dans les rapports d'enquête que nous faisons le même type de rapport d'enquête que ceux de la gendarmerie et du GEPAN. Mais donc les gendarmes sont habilités et ont l'obligation de prendre en compte et de noter ce témoignage qui normalement après doit circuler, c'est-à-dire qu'en fait ils doivent l'envoyer au GEPAN, au niveau du CNES, qui eux vont prendre en charge le dossier. Et qui, normalement, je dis bien normalement, devrait se déplacer sur le terrain, rencontrer les témoins. Et nous, en étant sur le terrain en même temps que tout le monde, en fait, à peu près, on se rend compte que c'est rarement le cas. Et pour les cas, effectivement, nous, où on estime que il n'y a pas d'explication rationnelle et qu'on a affaire à des objets complètement exogènes, hein, qui ont des technologies, des caractéristiques uniques, ils ne se déplacent pas. Parce qu'effectivement, ils ne pourront pas trouver d'explication. Et en ce moment, ils sont en train de réduire les pourcentages de toute façon, de manière à éliminer tous les cas qui sont les plus costauds et les plus béton.
Est-ce que le GEPAN a des moyens d'enquêter? Ils ont un budget conséquent,
ou pas? Ils ont pas un gros budget. Ils sont plusieurs. Bon, à une époque, ils avaient des enquêteurs de terrain qu'ils avaient choisis. Ils se déplacent de temps en temps. Mais bon, vous attendez pas des miracles.
Et ils ont une position officielle par rapport au phénomène d'OVNI?
Bah, leur objectif, c'est surtout de surveiller un peu ce qui se passe dans le ciel. Mais ils sont pas là pour interpréter ou donner, effectivement, des éléments de réponse. Donc, par contre, ils récupèrent quand même un certain nombre de témoignages. Tous les jours, ils reçoivent des coups de téléphone.
Alors, tu disais que vous travaillez pas beaucoup avec eux, mais est-ce qu'ils ont essayé de vous contacter ou est-ce qu'ils contactent d'autres associations pour avoir ce relais?
Ils travaillent pas avec des associations privées. C'est vrai qu'il y a deux sons de cloche. Entre ce que l'on voit sur le terrain, ce que l'on découvre sur le terrain, la manière dont ils traitent les informations, ça n'a absolument rien à voir. Je peux vous dire que on est même remonté par rapport à certains dossiers qui ont été modifiés, hein, même des rapports de gendarmerie. Donc on va s'arrêter là, parce que je veux pas avoir des problèmes. Mais toujours est-il que voilà, on ne fait absolument pas confiance à l'organisme. Et nous sommes pas les seuls.
D'accord. Et alors c'est peut-être aussi des raisons de secret défense, on ne sait pas. C'est vrai que là on peut s'imaginer plein de choses dès qu'on ne sait pas. Mais on pourrait aussi parler d'un cas récent que tu es en train d'enquêter ou qui est une enquête en cours, sans rien dévoiler évidemment.
La dernière observation en date, qui est un cas de constituante moyenne pour le moment parce qu'on est encore en cours d'enquête. C'est une dame qui habite à Roche-Marceloire, qui est observée le mercredi 24 avril, donc c'est très récent, à 6h30 du matin, donc il faisait pratiquement jour avant le lever du soleil, mais on était entre chien et loup, comme on dit, et elle a fait un petit film, en fait, pour faire la promotion de son gîte d'hôte, et donc elle prend son téléphone portable, elle commence à filmer la Loire avec des petits oiseaux qui chantent, un bruit, enfin, tout va bien, très belle lumière, le soleil se levant sur la droite, et ne dit pas qu'en fin de vidéo, elle se rend compte que il y a une grande masse lumineuse dans la partie gauche, derrière le pont. Alors, ce qu'elle nous a dit, c'est que le phénomène, à bout de bras, parce qu'on calcule à bout de bras, c'est-à-dire qu'en fait, le témoin, on va lui dire, bon, mettez-vous comme ça, mettez vos bras, dites-nous à peu près la dimension du phénomène, la taille apparente, ce qui est très important. Elle nous dit que ça faisait à peu près 7 cm, ce qui est conséquent. Bon. Donc l'enquête continue. On estime la taille de l'objet qui... Donc après, elle a posé son appareil. Elle dit, j'aimerais bien maintenant reprendre une photo, parce que je comprends pas ce qui se passe. Donc le temps qu'elle lève la tête, le phénomène s'est résorbé et s'est transformé en fait en forme rectangulaire avec comme des points lumineux rouges, orangés, au centre. Et le phénomène s'est estompé et a disparu complètement. Bon. Témoin digne de foi, qui connaît très bien son environnement, c'est vrai clair, phénomène rapproché ou semblant rapproché, à peu près 300 mètres du pont, mais enfin 300 mètres du pont, quand vous avez une taille apparente de 7 cm, imaginez la taille de l'objet.
Ouais, ça ferait combien alors?
Ça ferait l'équivalent de 3-4 voitures, les unes à côté des autres.
Donc pour reprendre en fait, quand tu dis à portée de bras, c'est-à-dire qu'on tend le bras, on montre avec ses doigts,
voilà, ses doigts
ce qu'on voit.
Ou l'écart des bras, tout simplement.
L'écart des bras, et puis après on regarde la distance du phénomène, voilà. Et là on peut estimer à peu près la taille.
Ouais, bon là c'est une estimation, parce que l'idéal c'est faire en triangulation qu'il y ait plusieurs témoins. Mais par exemple, si vous voulez simplement masquer la lune, hein, vous mettez simplement le petite phalange du bout de doigt, vous la masquez entièrement avec cette partie-là. Les gens s'imaginent que la lune est énorme, non. Vous ferez l'essai ce soir, vous vous rendez compte que finalement c'est pas si...
Ah oui, d'accord, juste qu'avec un bout de doigt, on cache la lune en fait.
Voilà,
on tend le bras, d'accord.
Alors quand le témoin nous
dit... Hier soir, elle était rousse, la lune, on a l'impression qu'elle était énorme, mais c'est pas du tout le cas en fait.
Oui, en plus il y a des illusions d'optique aussi, il y a le rotondité de la Terre, le côté atmosphérique. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que nous on a des témoins où le phénomène, bah, c'est complètement investi de complètement son champ visuel. C'est-à-dire que là, il est au-dessus du toit, il est de taille considérable. Hein, on a des phénomènes de 6 mètres, 6 à 8 mètres. Qui font tout le pignon de la maison. D'ailleurs, le cas sur lequel je vous ai ramené aujourd'hui, qui est un cas conséquent qu'on a enquêté du cas du Leroux, qui date pendant le confinement, mardi 20 avril 2020 à 23h42, c'est très précis. Donc deux témoins, un couple, lui travaille en tant que dans le domaine de la voiture carrosserie, tout ce qui est voilà, donc c'est quelqu'un de. Et elle travaille plutôt dans le domaine social et est habitée pendant des années près d'un aéroport. Ils sont en train de regarder une série à la télé. Alors, il me semble que la série, c'était...
OVNI.
Non, Dr House. Voilà. Et donc, ils sont en train de regarder la télévision. La fenêtre est ouverte derrière. Et ils entendent un bruit. Un bruit particulier qu'ils n'ont jamais pu reconnaître depuis. Hein. C'est quelque chose que ils ne peuvent pas déterminer ce que c'est. Ils n'ont jamais entendu ce type de bruit. Et ils ont l'impression que quelque chose est en train de passer au-dessus de leur toit. Donc il se retourne, et là, voit-il pas qui voit, la soucoupe volante classique, avec trois spots lumineux en dessous, qui éclairent comme en plein jour, tout le terrain. La chose fait du rasmat, va pas plus vite que 10-15 km/h, hein, c'est très faible, et continue comme ça, très très lentement, en ligne droite. Le tout continuant à éclairer toute la nature environnante. Ça a duré quand même une bonne minute, hein, et ce qui est extraordinaire, c'est que là, effectivement, ce type d'aéronef, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. On sait qu'a priori, le bruit a été volontairement produit par le phénomène pour que les témoins l'entendent. Alors, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est sur à peu près 40 mètres. Après 40 mètres, le phénomène n'émettait plus de bruit. Et là aussi, on a une structure, en fait, semblant solide, grimate foncée, avec trois spots lumineux en dessous, vraiment que et avec au-dessus un dôme, la soucoupe à dôme, et on a fait le calcul, alors, donc on est sur un phénomène qui fait 6 mètres de longueur.
Ah oui, d'accord.
Qui est considérable. C'est ah oui. Et donc il y a eu plusieurs témoins, évidemment, plusieurs témoins oculaires, il y a eu plusieurs qui ont vu les lumières en fin de déplacement, et aussi plusieurs qui ont entendu le bruit sur la trajectoire. Et c'est là où ils ont appelé la gendarmerie, directement. La gendarmerie a dit, bon, vous avez fumé, vous avez bu, allez vous recoucher. Bon. Point. Bon, suite à ça, bah, ils veulent savoir ce que c'est, ils contactent le GEPAN. Le GEPAN dit, ok, on n'a pas pris une note, voilà le numéro du dossier, etc., etc. Et ben, voilà, ça fait 3 ans qu'ils attendent que le GEPAN et les enquêteurs viennent sur le terrain.
Et donc, comment ils ont trouvé votre adresse,
alors
votre numéro?
Alors là, c'est un cas qui m'a été rapporté par d'un groupement de Tours, parce qu'on travaille aussi avec d'autres associations en France et quelques-unes à l'étranger. Et parce que, en fait, le témoignage avait été donné sur une télévision, sur France 3. Et en l'occurrence, le copain qui est enquêteur, là, Rémi Borne, qui a aussi sorti un ouvrage sur les phénomènes en Touraine, m'a fait part du cas que nous avons enquêté. Parce qu'on s'échange aussi des cas en fonction des disponibilités, et voilà. Et donc du coup, ça nous permet de rebondir, et notamment des cas comme celui-ci, hein, qui sont conséquents, et là pour lequel il n'y a pas photo. Les témoins ne mentent pas, on a fait une technologie que l'on ne connaît pas, qui nous transcende, qui nous dépasse complètement. Voilà, nous on est sur du factuel, un point c'est tout. On note ça, après libre à chacun d'interpréter. Mais si vous suivez tout ce qui se passe sur le net c'est un ramassis de bêtises, il n'y a plus l'enquête de terrain. Et c'est là. Et ça se passe à côté de chez vous. Ça se trouve à 5 minutes d'ici, en ce moment.
Donc, en fait, c'est là où vous êtes limité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire autre chose que d'être factuel. Vous n'avez pas de moyen d'aller plus loin, d'analyser, d'enquêter plus en avant.
Disons qu'on est bloqué. La situation du phylogé en France est bloquée, tout simplement parce que les dossiers sont bloqués. Il s'agit de dossiers, disons, secret défense, secret militaire. Et aussi bien aux États-Unis qu'en France. Même aux États-Unis, ça commence à se débloquer, mais non, on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Faut savoir qu'aux États-Unis, le dossier OVNI est classifié 2 degrés supérieurs à la bombe H en termes de sécurité. Alors, je veux bien croire que les gens disent « Oui, il n'y a rien du tout, il n'y a rien, non. » C'est qu'en fait, effectivement, le dossier, il est bâché. Il est conséquent. Parce qu'effectivement, si du jour au lendemain, vous ayez à la une du monde, voilà, effectivement, les gouvernementaux disent qu'il y a l'intrusion dans notre environnement de phénomènes inconnus dont l'origine n'est pas humaine. Vous réagiriez comment?
Et est-ce qu'il y a eu des cas qui sont arrivés il y a quelques années et puis plus tard, en fait, le secret défense a été levé et on nous explique que c'était des aéronefs, des tests d'aéronefs militaires. Est-ce que c'est déjà des choses qui sont arrivées?
Pas arrivé, mais très peu. Très peu de cas. Là, en ce moment, bon, on reparle de l'affaire Valensole avec Maurice Mas qui avait observé les entités, des entités avec un aéronef à côté. Savoir que des cas comme ça, on en a eu aussi. 1954, à Blaise-en-Goyer, vous avez eu l'observation d'une petite grand-mère, agricultrice retraitée, d'un phénomène ovni avec deux petites entités qui sont venues lui voler son ail et ses oignons. En pleine journée. Témoin digne de foi parmi des milliers et des milliers de cas.
Mais il y a aussi le cas dans les années 90 où des milliers de Français et de Belges ont vu dans le ciel un phénomène OVNI. Mais quand je dis des milliers, c'était des dizaines de milliers.
Alors là, on a affaire au 5 novembre 90. Il est à peu près 19h. Et donc en France, des dizaines de milliers de témoins observaient des phénomènes divers, hein, de grandes dimensions, silencieux, s'apparentant à des vaisseaux extraterrestres, on va dire ça comme ça, ou comme dans les films de science-fiction. Sauf que là, c'est de la réalité. Et qui avait des caractéristiques, qui projetait des faisceaux tronqués au sol, enfin absolument considérable. Le commandant Grelet, qui lui était en région parisienne, qui savoir que c'est un ancien pilote formé par l'US Air Force, après pilote de ligne, bon, il a piloté aussi des essais sur des avions militaires, en sortant de son club de judo, observait avec une dizaine de personnes un des phénomènes du 5 novembre 90. Pour lui, de toute façon, c'était considérable. Il disait 250 mètres de long par 50 mètres de hauteur. Dans le silence le plus total. Un vaisseau. Et les gens trouvaient ça absolument magnifique. On a plusieurs cas dans la région aussi qu'on a enquêté. Et là, à l'heure actuelle, bon, ça avait été bâché. Le dossier encore est toujours bâché. Mais il le sera peut-être toujours.
Donc en fait, dans le futur, qu'est-ce que tu aimerais pour que vous puissiez aller plus loin ou être plus efficace ou plus utile pour les témoins?
On va voir d'autres témoignages parce que c'est un dossier qui est tellement passionnant et on rencontre énormément de gens. On découvre beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'on est amené à déjà se déplacer pas mal. On est amené à rencontrer des gens issus de tous milieux. Et à chaque fois, il y a des nouveaux cas. Chaque phénomène OVNI est un cas différent. Il n'y a pas forcément une typologie, mais disons que chaque cas est différent parce qu'il y a des caractéristiques différentes et puis aussi un ressenti du témoin qui là aussi nous interpelle, hein, parce qu'il y a des gens qui ont été traumatisés. Et le traumatisme est à vie. Alors il peut être aussi très très beau, hein, il y a des gens qui ont trouvé ça absolument magnifique, d'autres par contre qui ont été effrayés. Et ce phénomène, c'est vrai, il est assez... Il continue à se manifester, même si on en parle un petit peu moins, parce que les actualités font qu'effectivement, il y a peut-être moins de place à tout ce domaine-là. Puis en même temps, les gens maintenant sont plus sur l'ordinateur et sur leur portable que aller voir ce qui se passe véritablement dehors. Hein. Moi qui suis enseignant, je vous le dis, hein, c'est... Voilà. Mais les cas sont là. Et ce que je voulais dire aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste parler, pour terminer un petit peu, du rapport du ministère de la Défense, et notamment de l'USRMI, enfin,
le ministère de la Défense américain.
Voilà, tout à fait. Qui, dans son rapport du Pentagone qui date d'un an, a listé, bon, et c'est des militaires, des pilotes militaires, notamment du US Navy, qui ont témoigné, et a filmé à la clé, hein. Même si les films que vous avez vus sur le net et compagnie, ça c'est de la poudre aux yeux. Hein. Faut savoir que selon certains experts chercheurs qui ont pu voir, notamment aux États-Unis, certains films, ont déclaré que ce qu'ils avaient vu c'était des images de science-fiction, tellement les phénomènes rapprochés étaient considérables. Donc c'est une caractéristique unique des ovnis qui font qu'effectivement on peut se poser la question quant à leur origine. Et bon, ils défient la logique et la physique, selon le rapport du Pentagone. Premier point, accélération immédiate et instantanée. Ils peuvent tout faire n'importe quel type de mouvement, soudain et délibéré. On se demande comment. Ils peuvent contrôler leur mouvement. Vitesse hypersonique sans signature. Donc vitesse bien supérieure à celle du son, sans laisser de traces perceptibles. On se demande comment ils arrivent à se produire. Faible observabilité, difficile à détecter et identifier. Système furtif qui absorbe ou réfléchit des ondes électromagnétiques.
Donc ça, c'est un rapport qui,
aujourd'hui est
accessible. Hein,
Vous l'avez sur net. Voyage transmédia, se déplacer dans des environnements différents sans que leur capacité de performance ne soit affectée. Passer par exemple de l'air à l'eau. Et pour finir, portance positive, résister aux effets de la gravité. Également se déplacer à des vitesses impossibles à atteindre pour des avions conventionnels. Donc avec des matériaux inconnus. Et donc ils préconisent plus de recherche et de coopération.
Oui, donc ils sont factuels aussi.
Pour l'être.
Est-ce que vous avez des événements à venir?
Alors, oui, on est en train de préparer la troisième rencontre ufologique de Montsoreau, qui aura lieu, en train de préparer l'affiche, là, les 26 et 27 octobre 2024.
Ok.
Voilà. Et donc, il y aura plusieurs invités, notamment Jonathan Ginet, qui est un spécialiste de la vague de 54. Bon, après, ça ne parle pas forcément à tous, c'est Jocelyne Keller, Patrice Galactero, ce sont des gens qui sont assez pointus, qui sont des gens de terrain.
Donc des conférences assez pointues pendant 2 jours.
Pendant 2 jours.
C'est gratuit.
C'est gratuit.
Ok, super. Et sinon, on vous retrouve sur les réseaux alors, OVNI en joue. Vous avez une page Facebook.
On a une page Facebook et puis un mail, voilà.
Alors okay. C'est OVNI 49, la page Facebook, c'est ça?
Ouais.
Voilà. Et juste pour terminer, concernant les hypothèses, elles sont multiples. Moi, je parlerai à mon nom propre, mais pas au nom de l'association, tout simplement pour dire que il peut y avoir plusieurs sources. Qui se mélange, qui se manifeste, et c'est très complexe, en fait, à faire la part des choses. Mais il va de soi que, pour moi, s'il s'agit de phénomènes exogènes ou exotiques, ou qui appartiennent déjà à cette terre, mais qui ont des capacités absolument considérables, qui, selon un petit peu moi ce que je ressens, ce que je commence à découvrir, qui pourraient maîtriser l'espace et le temps.
Ok, eh ben, merci Frédéric.
Merci Frédéric.
Merci à vous.
Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Je voulais juste annoncer notre soirée jeu de rôle sur le site Troglodyte et Sarcophage. On en a déjà parlé dans cette émission. Donc, ce sera le vendredi 5 juillet. Il y a une partie plutôt familiale vers 18h et puis une pour des joueurs un peu plus confirmés vers 21h. Vous pouvez réserver sur le site troglo-sarcophage.fr. C'était à Douai-la-Fontaine. Et puis, on va se terminer l'émission avec les Foo Fighters. Donc, une des têtes d'affiche du Hellfest. Le morceau The Sky is a Neighborhood. Restez à l'écoute de Radio G. À bientôt.
Au revoir.
Salut.